Alléluia. Bon, alors, donc, on va arriver. Donc, je disais, le premier axiome sur lequel l'économie de marché est basée, c'est effectivement que les ressources sont limitées. Et en plus, comme il y a de plus en plus de monde sur la Terre et que tout le monde veut se les arracher, se les partager, donc, c'est pénurie, frustration. Vous vous rappelez que dans l'occultisme, je vous expliquais que Satan s'ingénie à créer la pénurie, créer en plus de ça des distorsions entre certains pour exciter la convoitise, les guerres, les trucs, etc. Bon. Donc, d'un côté, on a cet axiome, les ressources sont limitées. De l'autre côté, on a l'autre axiome, sur lequel tout est basé, c'est les besoins de l'homme sont illimités. Vous n'aviez pas, il y a 8 ans ou 10 ans, probablement de lecteur de DVD, et puis aujourd'hui, vous en avez un. Et puis demain, vous n'aviez pas d'ordinateur portable. Et puis aujourd'hui, vous en avez un besoin pressant. Personne n'avait de portable il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde en a un. Donc les besoins augmentent. Et comme le nombre de gens augmente, les besoins, on connaît une croissance exponentielle. Vous êtes bien d'accord? Alors, nous allons démontrer déjà que ces deux axiomes dans le royaume des cieux et sont absolument mensongers. Donc, nous devons bien comprendre que ces deux axiomes créent une oppression de plus en plus grande, puisque tout le monde est là en disant les ressources diminuent, et puis de fait, il y a de plus en plus de familles, etc. Et la Bible nous annonce qu'il en sera ainsi à la fin des temps. Hein. Donc, c'est bien l'état du monde. Et de l'autre côté, eh bien, les besoins s'accroissent au fur et à mesure des inventions, des choses, etc. Tout le monde veut le partager, tout le monde en veut autant. Hein. Autrefois, la Chine, elle avait une voiture pour 3000 personnes. Maintenant, sur 3000 personnes, quand il y en a une, il n'y en a pas, ils trouvent que ce n'est pas très normal. Bon. Donc, je poussais un peu les chiffres, mais il y a une explosion de tous les côtés, d'accord? Donc, on est face à ça, et bien sûr, ça crée une oppression de plus en plus grande, parce que les gens ont l'impression d'avoir toujours pas suffisamment pour pouvoir faire. Il y a un appauvrissement généralisé qui se fait d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui en France, même les gens n'ont plus de toit, de choses, etc. On le dit, on voit bien qu'il y a un appauvrissement. Les pays les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les pays les riches deviennent de plus en plus riches. Tout ça nous a été annoncé dans la Bible. Or, nous allons voir que ces deux axiomes ne sont absolument pas des vérités bibliques. Et donc, pour nous, ne fonctionne pas si nous avons foi en ce que Dieu a dit et pas dans ce que le monde nous explique et nous démontre. Parce que les besoins sont illimités. Faux! Nos besoins sont très limités. Mais la parole de Dieu nous montre que nos désirs sont illimités. C'est-à-dire que dès qu'il y a une invention quelque part, on en veut absolument, et puis après on est certain qu'on ne peut pas s'en passer. Bon. Et tout le système de l'économie de marché est fait pour transformer les désirs en besoins. D'accord? Vous avez besoin d'une petite voiture pour votre truc, mais toute la publicité va vous faire comprendre que si vous n'avez pas votre voiture avec le GPL, le machin, le airbag, le truc, le ceci, le cela, vous êtes le dernier dé. D'accord? Et puis si vous n'avez pas le DVD, si vous n'avez pas le dernier portable qui fait en même temps photo, caméra, et puis maintenant qui peut vous prendre les machins, etc. Donc déjà, alors que la parole de Dieu nous dit, si nous avons le boire et le manger, cela nous suffira. Il y a d'autres besoins. Nous verrons qu'il y a d'autres besoins. Nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin de chauffage. Mais les vrais besoins, moi je l'ai vu, si vous voulez, d'une manière très forte. Un jour, j'allais à Brazzaville et à Pointe-Noire, et juste à la sortie de la guerre civile qui avait décimé le pays où tout avait été cassé. Et vous savez, dans une économie où il ne reste absolument plus rien, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus de train, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, vous commencez à voir quels sont les vrais besoins. Les besoins, c'est l'eau, le boire, et c'est manger. C'est ça les vrais besoins. Bon, et puis éventuellement des vêtements, etc. Bon, je ne dis pas que vos enfants n'ont pas besoin de baskets, mais pas forcément de la dernière marque. Maintenant, on leur fait croire que s'ils n'ont pas telle marque, moi, je ne sais pas quelles sont les marques de baskets pour les mômes, ben, ils vont être vraiment des petits malheureux, et puis que les parents sont des bourreaux d'enfants. S'ils n'ont pas donné la dernière marque, ben, tout est fait comme ça. Bon, déjà, nos besoins sont très limités. D'autre part, les ressources sont, nous dit le monde, limitées. Faux, archi faux. Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en sa parole, car il est écrit, psaume 33, Dieu dit et la chose existe. Genèse 1:1, Dieu dit et la lumière fut. Et puis vous commencez à avoir des milliards de galaxies qui commencent à se déployer à tel point que nous sommes absolument incapables même de savoir le nombre de milliards de galaxies qu'il y a dans chaque galaxie. Il y a des milliards de soleils, des milliards de planètes, des milliards d'étoiles. Et c'est incommensurable. Le Seigneur nous montre tout le temps son infinité sous nos yeux. D'une parole, Dieu crée. Dieu dit une parole, des milliards d'espèces animales, végétales. Commence à se développer dans l'eau, sous l'eau, dans l'air, partout, sur les arbres, les fruits, c'est illimité. Et la parole, on le sait, la science nous montre qu'il n'y a pas même deux feuilles d'arbres semblables, pas deux flocons de neige semblables. C'est-à-dire que la création de Dieu est absolument illimitée. Et Dieu n'a aucun. Jésus a dit, mais de ces pierres, Dieu peut faire des enfants à Abraham. Il peut faire des enfants à Abraham, de pierres. Donc Dieu n'a pas de limite. Il n'y a que notre incrédulité qui peut le limiter. Amen. Donc les deux axiomes sur lesquels le monde est basé n'existent pas pour les citoyens du ciel. Êtes-vous citoyen du ciel ?
Amen.
Si vous êtes né de nouveau, vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous êtes étranger et voyageur sur terre, vous êtes citoyen du ciel, vous êtes ambassadeur de Christ sur terre, et les lois qui régissent le monde et qui le mettent sous l'oppression ne doivent pas vous atteindre. Et en fait, elles nous atteignent parce qu'on est tout le temps repris dans les raisonnements du monde, parce qu'on a quand même les pieds sur terre et qu'on est quand même sur terre. Hein? Jésus a dit, je ne te prie pas, ils ne sont pas du monde, mais je ne te prie pas de les enlever du monde, c'est Jean 17. Il a dit, ils ne sont pas du monde. Le simple fait que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus assujettis à ces lois d'oppression mises par Satan. En fait, Dieu a largement mis sur terre tout ce qu'il fallait pour nourrir tout le monde et pour pouvoir aux besoins de tout le monde. C'est l'homme qui sous la Saint-Génie, sous la pression de Satan, à faire que certains accumulent, alors que les autres crèvent de faim, tout simplement. Nous, un jour, en rigolant, un pasteur africain m'a dit, mais vous jeûnez pour que Dieu vous donne vous donne la force de ne plus mettre autant de choses dans votre assiette. Nous jeûnons pour que Dieu mette quelque chose dans notre assiette, cherchez l'Europe. Non, mais c'est la vérité. Bon, d'accord ? Alors, nous allons voir que ce que Dieu dit, il le prouve et que tout ça est parfaitement écrit. Et on va commencer par lire 1 Corinthiens 10 pour comprendre que tout ce dont nous allons parler après, ce n'est pas des histoires de l'ancien temps, mais ont été écrits pour nous. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ah, il était spirituel, pourtant il était bien physique, la manne. Mais il venait du ciel. Il avait commencé à être créé dans les lieux célestes, spirituellement, et est descendu sous forme physique, bien tangible, bien matérielle, d'accord ? et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Mais attendez, c'est des fleuves d'eau qu'ils ont bu. Pourtant, on nous dit que c'était un breuvage spirituel. Il a été créé par la parole de Dieu dans le ciel et il s'est concrétisé dans le désert car il buvait un rocher spirituel. Pourtant, le rocher, il était bel et bien là et qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Jésus était avec les Hébreux dans le désert. Amen. Ça, c'est un bon truc à montrer aux cathos là, qui disent que Jésus a été créé par Marie. Non, il était déjà avec les Hébreux dans le désert. Hein. Mais la pure part d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils prirent dans le désert. Nous y reviendrons parce que très souvent nous bloquons la bénédiction de Dieu par notre cœur. Et nous allons voir combien c'est grave. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, on parle de mauvais désirs, convoitise, l'envie, etc. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Nous allons voir combien ce message est important. Et je peux vous dire que chaque fois que je rencontre des personnes qui ont ce que j'appelle l'esprit de revendication, qui sont toujours en train de râler sur leur sort, sur le fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont fait, qu'ils sont toujours mécontents de ce qu'ils ont, qu'ils ne sont pas en train de rendre grâce à Dieu de ce qu'ils ont, moi je sais qu'ils ont, ils ne recevront rien de Dieu. Et qui recevront au contraire que des coups du diable. Faisons attention à notre cœur. Dieu veut qu'on ait des cœurs de reconnaissance, mais tous les chrétiens qui sont tout le temps dans l'esprit de revendication et de murmure, moi je ne m'en occupe même pas. Je leur dis, si tu ne t'humilies pas, tu ne changes pas radicalement de comportement, si tu as toujours l'esprit de murmure, tu es comme les Hébreux, tu ne prendras que des coups. Dieu n'aura aucune pitié de toi. Pas de pitié. Nous allons voir que Dieu est vraiment en colère contre les gens qui ont l'esprit de murmure et qui n'ont pas, qui ne remercient pas Dieu pour ce qu'ils ont. Vraiment. Et c'est plus que de la colère parce que ça fait périr. Périr dans le désert. Périr par l'exterminateur. Qui est l'exterminateur? C'est Satan. Satan, par rapport à ceux qui sont tout le temps en train de pleurer, de murmurer, de râler de ce qu'ils n'ont pas, de convoiter ce qu'ont les autres, Satan a le droit absolu de la part de Dieu de venir leur faire toutes les misères du monde et y compris de les faire périr. C'est pas la peine d'aller les bénir. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc tout ce qui est écrit en Exode et dans le Pentateuque est écrit pour notre instruction. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament ne sont qu'une seule et même personne. Et Christ était avec les Hébreux dans le désert. Et quand ils ont murmuré, ils en ont pris plein la figure. Tout le temps, Jésus était avec eux. D'accord? Alors nous allons maintenant voir. Je vous dis ça en préambule, parce que nous allons voir comment Dieu pourvoit. C'est fantastique! C'est fantastique! Alors on va rentrer dans Exode, puisque c'est écrit pour notre instruction, ça veut dire que notre Dieu n'a pas changé, et je peux dire que pratiquement tout ce que dont je vais vous parler, Dieu me l'a fait vivre d'une manière ou d'une autre. Amen! Et je sais que mon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Donc nous voilà, alors qu'ils viennent, ils ont été pendant 400 ans esclaves en Égypte, donc nous sortons tous de l'Égypte ou de Babylone, où nous étions esclaves, dans le monde, si vous voulez, et sous la férule du diable, et Dieu les a arrachés, nous a arrachés, et les voilà qui sont envoyés dans le désert, et ils ont des besoins. Ils ont besoin de boire, ils ont besoin de manger. Ils n'ont pas que ces besoins-là, d'ailleurs, on le verra, il y en a d'autres. Trois journées de marche dans le désert, nous dit le verset 22, c'est dans Exode 15. Trois journées de marche dans le désert, ils n'ont point d'eau. Alors attendez, alors là, quand on parle de besoins, on parle de vrais besoins, parce que dans le désert, 40 degrés, je peux vous dire qu'ils avaient vraiment besoin d'eau. Alors,
ça s'arrête au 21.
15-22. Ils arrivèrent à Mara. Mais ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Vous savez que le mot Marie vient de Mara, ça veut dire amère. C'est un prénom à lui seul qui montre une malédiction. Hein. Pas une bénédiction. Bon, cela dit, la Marie, mère de Jésus, on peut l'honorer, elle a été une femme formidable, mais à l'égal de Paul, de Pierre, ni plus ni moins. Hein. Bon. Le peuple murmura contre Moïse. Contre qui ils en ont ? Contre Dieu ? Ils murmurent contre Moïse. On est toujours en train de murmurer contre les hommes qu'on a apportés. En disant, que boirons-nous ? Et donc, il va se passer parce qu'ils ont les... Voilà, une... Tout est préparé d'avance par Dieu, y compris cette épreuve. Et vous savez ce qui va se passer ? Cette eau qui est amère, qui, quand on parle d'amère, elle est empoisonnée. Hein ? Elle est imbuvable. Il risque d'en mourir. Elle n'a pas simplement un mauvais goût. Donc, il crie... Et Dieu est bon, donc Dieu va donner des ordres à Moïse, il va jeter un bâton, et l'eau va devenir potable. Notre Dieu est un chimiste extraordinaire. Et donc ils vont pouvoir se désaltérer. Puis il continue, et je vais lire quand même au passage, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau, un par tribu. Alors on voit qu'il y avait des choses où Dieu va changer les choses sur le moment, et d'autres que Dieu a préparé complètement d'avance, peut-être depuis des siècles. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Vous connaissez tous ces chiffres, à quel point ils sont importants dans les peuples hébreux. Les 12, les 40, les 50, les 70, ce sont vraiment des chiffres sacrés. Et 7, bien sûr. Et là, donc, ils vont camper auprès des sources d'eau. Bon. Donc voilà Dieu qui a déjà montré la grande puissance par la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies qui sont tombées sur les sources d'Égypte, etc. Et moi je dis toujours en rigolant, il n'y a rien qui ressemble plus aux Hébreux que les Français. Donc, soyons attentifs, c'est des râleurs permanents. Jamais contents, toujours en train de murmurer. Mais quand on voit les conséquences que ça a eu, réfléchissons. Parce qu'on peut s'humilier. Quand je parlais des esprits territoriaux, eh ben vous pouvez parler de l'esprit de murmure, qui est l'esprit de la Révolution française. L'esprit de murmure qui est sur notre pays. Ça n'amène pas la bénédiction de Dieu. D'accord ? Verset 2 de Exode 16. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Évidemment, c'est contre nous encore. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis. Ils ont oublié l'esclavage, ils ont oublié les coups de fouet, ils ont tout oublié. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous avions du pain à satiété. Alors, toujours en train de dire, ouais, avant, c'était tellement mieux, on avait tellement mieux. Quand on était dans le monde, on avait tout ce qu'on voulait. Bon. Car vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim. Toute cette multitude, râleurs, plus français que vous mourrez. Bon. L'Éternel dit à Moïse, alors, Dieu est bon. Voici, je vais vous faire pleuvoir du pain du haut du ciel. Le peuple sortira, on ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Et oui, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Et que je vois s'ils marcheront ou non selon ma voie. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de verser du pain céleste, la manne, tous les jours, la ration qu'il fallait tous les jours au lieu d'en envoyer un gros paquet d'un coup. Puis après, d'aller se baquer à d'autres occupations. Parce que Dieu voulait montrer à son peuple qu'il était avec lui, jour après jour. Et il voulait que son peuple, sa foi, il est dit que les bienfaits de l'Éternel se renouvellent tous les matins, que sa foi se construit jour après jour, qu'il sache que son Dieu était avec lui. Amen. Et donc, on sait ce qui va se passer. Ils vont avoir toute cette manne qui va tomber. Attends, je peux pas tout lire parce que c'est très très vaste ce chapitre. Mais ils râlent quand même, ils veulent des cailles. Bah oui, moi j'aime bien les cailles. Je vais vous donner la recette, au foie gras, avec vous faites des petites pommes de terre autour, avec des petits oignons, un peu de trucs. Enfin, et puis il faut au moins en mettre deux dans la casserole pour que ça soit bon. Donc, maintenant que je vous ai donné la recette. Donc ils râlent pour avoir leur caille. Dieu est bon. Il leur promet du pain. Non, ils veulent des cailles. Eh bien, Dieu va envoyer des cailles. Verset 13, le soir survint des cailles qui couvrirent le camp. Attendez, je voudrais qu'on prenne un petit peu, parce que pour vous montrer que notre Dieu est illimité, combien d'hommes sont partis d'Égypte avec, en plus, des bêtes? Ils sont partis avec des bêtes qu'il fallait aussi nourrir et abreuver. 600 000 hommes de pied. C'est-à-dire entre 20 et 50 ans, je crois que c'était. Mais il y avait les femmes et les enfants, plus les animaux. On peut facilement évaluer un minimum 4 millions de têtes à nourrir. Bon, ça doit être de cet ordre-là. Avec les femmes, avec les enfants, et avec les enfants, ils en avaient souvent 6-8, hein. Et avec en plus les bêtes, des brebis, des moutons, des ânes, des bœufs, etc. Ils sont partis avec tout ça. Il fallait aussi qu'ils mangent, hein. Donc, ils sont partis avec tout ça. Ils sont, donc, imaginez, on prend, c'est pour Dieu, pour nous montrer que ça n'a aucune importance pour notre Dieu, le nombre. C'est pas le nombre qui compte. On le verra après Jésus avec la multiplication des pains. Qui a eu 100 personnes et qui en a eu 5000, ça ne change rien. D'accord? Alors, c'est le même miracle pour Dieu. Dieu est illimité. Il n'y a que nous qui le limitons. Et donc, les cailles couvrent le camp. C'est-à-dire, le camp, il devait être grand, hein, il ne faisait pas des gratte-ciels. Donc, il faisait probablement plusieurs kilomètres de rayon. Hein. Et donc, couvrir le camp, donc on peut imaginer des millions de cailles qui sont tombées. Des millions de cailles. Tout content, il les mange, tout va bien. Et puis, le lendemain, les gens vont trouver la manne. Et Dieu va ordonner que chaque homme puisse aller cueillir la manne. Et autant, souvent les gens disent « Ah oui, c'est facile pour toi, tu dis que tu vis par la foi, mais tu es toute seule, tu n'as plus de charge. » Et comme si Dieu ne savait pas le nombre de personnes qu'on a à charge. Mon juste vivra par la foi. Ça n'a rien à voir avec mon serviteur vivra de l'air du temps. Ça veut dire que si, enfin je sais pas où est-ce que les gens ont cherché ça, mon juste, tout chrétien doit vivre par la foi, pas la foi dans son patron ou dans sa caisse de sécurité sociale, mais dans ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça qui nous nourrit, c'est de croire en ce que Dieu a dit. Peu importe qu'on vive d'un ministère ou qu'on vive d'un salaire, ça n'a aucune importance. On doit vivre par la foi. Et si on ne vit pas par la foi, si on ne vit pas de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, on n'est pas juste. Point final. D'accord? Alors donc, Dieu ne se dédie pas. Donc l'homme était chargé d'aller cueillir. Donc il avait le droit de prendre autant de portions qu'il y avait de personnes dans la famille. Et notre Dieu n'a pas changé. Et donc il pouvait prendre toutes les portions. Il n'y avait aucun problème. Et ce n'était pas des petites portions, hein. Ce n'était pas des portions, ça devait représenter quelque chose comme 1,5 litre de cette manne, en gros, pour nourrir. On peut imaginer que cette manne, il y avait tout dedans. Il y avait les oligo-éléments, il y avait les vitamines C, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6. il y avait la vitamine D, il y avait tout ce qu'il fallait. Parce que tant qu'ils ont mangé la manne, ils n'ont jamais été malades. Donc, la manne devait contenir absolument tout. Et puis, comme Dieu ne se dédie pas qu'il avait dit qu'il fallait se reposer le dernier jour, le septième jour, alors, il y en a tout de suite qui se sont dit, incrédulité, il n'y en a pas d'incrédule au milieu de nous, on le sait bien, mais un petit peu d'incrédulité, on dit, bon d'accord, je cueille la manne, mais on ne sait jamais ce que Dieu va faire demain matin, des fois qu'il nous oublierait. Alors, on va rabioter un peu sur toutes les portions qui sont quand même assez bonnes, on va rabioter un petit peu, on va se les garder pour le lendemain matin. Le lendemain matin, bourré de verre. Puis Dieu avait dit, la veille du sabbat, vous cueillerez une double portion. Et là, c'était pas bourré de verre. Il avait d'autres propriétés, cette manne. Vous savez, Dieu nous a donné un goût. Et moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, bon, j'aime beaucoup le caviar, le homard, le foie gras, mais au bout du quatrième jour de homard, j'en ai ras-le-bol du homard, j'ai envie d'un steak frites. Au bout du huitième jour de caviar, j'ai dit, oh là 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 là, un bon coup de rillette, qu'est-ce que je serais contente. Bref, Dieu nous a donné un goût, on aime bien avoir des variétés. Et, donc je dis en blaguant, hein, parce... il y a longtemps que je n'ai pas mangé du homard, ou les langoustes survolées. Bon, enfin bref, la manne pouvait être cuite de tas de façons. Et vous savez qu'il était parti avec plein de trucs, hein, des épices, des machins, etc. Elle pouvait être cuite comme des galettes, comme des gâteaux, comme des trucs. Enfin, il pouvait faire des tas de choses, du pain, des trucs. Vous pouvez la cuire de tas de façons. Donc elle devait, même, je pense que notre Dieu devait la faire changer. Il devait la faire changer de goût tous les jours, selon la manière dont les gens les préparaient. Parce que notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés, il sait qu'on a bien changé de choses. Bon. Alors, donc, ils mangèrent, il est dit au verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Donc, c'était un homer, c'était une très très grosse quantité. Donc, Dieu a fait pleuvoir la manne pendant 40 ans. Jour après jour, elle venait du néant, de rien. Elle tombait du ciel. Elle tombait du ciel. Dieu dit et la chose existe. Il a nourri son peuple, il en a nourri trois générations. Parce qu'il y en a eu trois générations, il y en a deux qui sont restées dans le désert. Il les a nourris jour après jour. Quant à l'eau, on a vu l'histoire de Mara, on a vu l'histoire des 12 palmiers, mais chapitre 17 d'Exode, le peuple a soif, il n'y a pas de doute qu'il a soif. D'ailleurs, Dieu va dire que par moments, il l'a fait souffrir de faim et de la soif pour, vous savez, il est dit dans la parole, on le verra tout à l'heure en Deutéronome 8, pour voir, pour éprouver et pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, c'est souvent nous qui ne le savons pas. Alors, quelquefois, le Seigneur nous met dans des épreuves pour qu'on voit à quoi notre foi est accrochée. Est-ce qu'on a foi dans Dieu, dans ce qu'il a dit, ou est-ce qu'on a foi parce que notre foi ne fonctionne bien que quand tout va bien? Ben, si notre foi ne fonctionne bien que quand tout va bien, dans les temps qui arrivent, elle ne tiendra pas. Les secousses vont être de plus en plus grandes, hein. Notre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc ce que je vous lis, notre Dieu n'a pas changé. Entendez bien, parce qu'il va arriver des temps de disette, des temps de sécheresse, des temps de famine. Vous voyez arriver les unes derrière les autres, des phobies alimentaires, les poulets à la dioxine, les vaches folles, on a tout la fièvre, la grippe aviaire. Petit à petit, on va commencer à tuer tout notre aliment. Et ça fait déjà des années que les paysans crèvent, qu'on leur fait faire des cultures qui ne serviront à rien bientôt parce qu'ils n'arrivent plus à à survivre avec des cultures normales, parce que tout ce qui arrive de l'extérieur, vous l'entendez assez, les supermarchés, les grandes surfaces tirent les prix dans tous les côtés, les paysans crèvent, c'est un jugement qui arrive, hein. Petit à petit, nous nous privons de toutes nos ressources alimentaires, on est de plus en plus dépendant des pays tiers, et un jour ça va être terminé. Et tout ça nous est annoncé. Donc où notre foi est accrochée, où on est encore là en disant ça va, j'aurai mon Lidl à côté, je pourrai prendre ce que je voudrais. Mais rappelez-vous à ce qui s'est passé à la chute en Russie, les rayons étaient vides. Il n'y avait rien. Et vous savez, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir que tout est en train de se préparer. Sous nos yeux, il y a des phobies alimentaires, des trucs OGM, on va tout d'un coup découvrir que c'est une cata. Je dis pas ça, je pense que c'est dans la lignée des choses qui se font. On le voit, il y a la grippe aviaire, on sait que ça peut se communiquer à l'homme, tout le monde vit dans la terreur. Le jour où ça va se communiquer, tout le monde va tuer tous les poulets. Puis après, ce sera les porcs, puis après, ça a déjà été la vache, puis ce sera. On voit bien qu'il est en train de se préparer des trucs épouvantables. Et en même temps, on est en train de tuer tous les paysans, on est en train de les tuer littéralement. Ils fuient, ils n'ont pas de quoi survivre. Donc nous devenons de moins en moins autonomes. Alors donc, les voilà qui arrivent à. Mais je vous raconte tout ça pour dire attention! Maintenant, je veux raconter qui est notre Dieu. Alors, donc, les voilà qui arrivent à Réphidim, et puis ils ont soif. Alors, verset 2, alors le peuple chercha querelle à Moïse. À qui ils en veulent? À Dieu. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Comme si Moïse, comme ça, il avait fait un coup de magie, puis... Mais il va faire, mais c'est Dieu qui va faire, c'est pas lui. Alors, donc, Moïse crie à l'Éternel, et que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. Et l'Éternel va, à ce moment-là, il va y avoir un rocher providentiel, et Dieu dit à Moïse, tu vas frapper une fois ce rocher, on sait que ce rocher était Christ, il n'a été frappé qu'une fois, et de ce rocher va sortir un fleuve d'eau. C'est pas trois gouttes qui sortent. Pour nourrir dans un désert où il fait horriblement chaud, plus de 40, 50 degrés, 55 degrés au soleil, vous pensez bien qu'ils ont vraiment soif. Donc, voilà ce peuple qui va être abreuvé pendant 40 ans. Ce rocher va les suivre et tous les jours verser des fleuves d'eau. Vous croyez que notre Dieu est limité? Il n'est pas limité. Mais c'est pas fini. Vous savez que dans ces déserts, dans tous les déserts d'ailleurs, il fait très chaud le jour, il fait très froid la nuit. Donc il marchait beaucoup la nuit parce que c'était dur de marcher le jour, pas un truc prudent. Mais ils n'avaient pas de pilomondeur, il n'y avait pas de néon. Qu'est-ce que Dieu a mis? Une colonne de feu les précédait. Elle les guidait, mais dites donc, elle les chauffait en même temps. Et qu'est-ce qui se passait le jour? Ils auraient pu avoir la peau brûlée. Ils étaient couverts par la nuée. Une nuée s'est fait de gouttelettes. Elle hydratait leur peau. Dieu s'occupe de tous nos besoins. Tous nos besoins. Et puis il y en a d'autres. On apprend que leurs pieds ne se sont pas enflés. Que leurs vêtements ont tenu pendant 40 ans. Les enfants grandissaient. Ça veut dire que les enfants grandissaient avec. Les vêtements grandissaient en même temps que les enfants, les chaussures aussi. Mais notre Dieu est illimité. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème. Ils n'avaient pas le moyen de changer tous les ans de paire de baskets, hein. Donc ils ont gardé les mêmes chaussures pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, leurs chaussures ont tenu le coup. Ils n'ont pas eu de la sécurité sociale de Dieu gratos. L'EDF gratuit. Amen. Il y a quelqu'un qui est derrière la porte. D'accord. Donc nous voyons vraiment notre Dieu. Il a tout prévu. Il a tout prévu. Il a répondu à tous leurs besoins. Et leurs vêtements se sont point usés. Enfin, c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé pendant toute cette chose. Alors, voyons quand même qu'il y a eu des moments, ça aurait été des râleurs, on va passer à nombre 20. Nombre 11, pardon. Quand je vous ai dit qu'il était plus français que les Français. Moi, quand je lis ça, ça me fait rire. Que j'ai l'impression de voir les défilés français, vous savez. Je vais te lire quand même le verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors là, ils se sont repentis. Nous allons voir après, dans l'histoire du serpent brûlant, que beaucoup sont morts. Verset 4. Le ramassis de Jean. Parole de Dieu. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Vous savez qu'Israël était parti avec toute une série d'étrangers qui avaient décidé de rentrer avec, de partir avec les Hébreux, hein, pour une raison ou pour une autre, mais ils avaient été accueillis, ils se sont fondus au milieu du peuple de Dieu. Fut saisi de convoitise. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais ils voulaient autre chose. Et même, alors ça, c'est ce communique, hein, il y en a un qui n'est pas content, ouais, et puis l'autre, ah, ouais, t'as raison, et puis le troisième qui arrive, oh là là, de quoi vous parlez, oh ouais, vous avez raison. Mais ça n'existe pas dans nos églises, c'est bien connu. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons. Il y a des paroles qui sont importantes là-dedans. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Travailler 18 heures par jour. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Et maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Pleure rien. Nos yeux ne voient que la main. Mépris des dons de Dieu. Et ça, croyez-moi, c'est une attitude terrible. Mépriser ce que Dieu donne. La main ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du coriandre, l'apparence d'albium. Et c'est là où on apprend qu'il a broyé dans les meules, qu'il faisait des gâteaux, qu'il pouvait faire des tas de choses avec eux. Hein. Et ils vont évidemment pleurer contre Moïse, contre Aaron, c'est encore eux, etc. Et Moïse va s'adresser à Dieu, et puis il est là, et il n'en peut plus, Moïse. Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? C'est le verset 13. Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Comme si Moïse, Moïse allait pouvoir faire de la magie, là, vous voyez. Ça, c'est ça, toi, que je propose ça. Je ne puis à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et c'est là que Dieu va lui dire, commence à donner des chefs, délègue. Et l'onction va tomber sur les autres. Vous savez que quand on désigne ici des personnes pour prier, l'onction tombe sur eux. Amen. Et oui, l'onction tombe sur eux. Ils reçoivent la même autorité, ils reçoivent la même onction. Dieu veut qu'on transmette. Hein. Donc, Dieu a dit à Moïse, rassemble 70 anciens, et les 70 anciens ont reçu l'onction de Moïse. Et même ceux qui n'avaient pas pu venir, qui étaient bloqués, l'ont quand même reçu. Amen. Alors c'est là qu'on sait qu'il y avait 600 000 hommes de pied. Et puis Moïse dit, mais comment on va faire pour les nourrir? Est-ce qu'on va égorger combien des moutons, etc.? Mais on ne va pas y arriver. Est-ce qu'on va égorger pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'il y en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'il y en ait assez? C'est le verset 22. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Parce que Dieu avait dit, ah, ils veulent des cailles, ben, je vais leur en donner. Ils vont en manger pendant un mois entier. Ils en veulent. Vous savez que de temps en temps, il y a des prières, il vaut mieux pas trop les faire à Dieu. C'est une petite, tu en veux, tu vas voir, je vais t'en donner. Et après, on ne peut plus dire, oh, Seigneur, arrête, 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 arrête. Alors voilà à peu près ce que ça donne. Regardez un peu si notre Dieu est limité. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles et les répandit sur le camp. Bon, jusque-là, ça ne paraît pas extraordinaire. Mais quand on va voir ce qui se passe, on se dit, mais tout sortait ces centaines de millions de cailles. Car ce sont des centaines de millions qui sont tombées. Et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté. C'est quoi une journée de chemin? 20 km, 30 km, 40 km. D'un côté, de l'autre, aussi loin qu'ils pouvaient voir, au-delà de ce qu'ils pouvaient voir. Une journée de marche. C'est bien plus que ce que vous pouvez voir. Sur une coudée de haut, c'est environ 55 cm. Pardon, deux coudées de haut, donc 110, 1,10 m. D'épaisseur de caille, sur 20 km ou 30 km à la ronde, aussi loin, bien plus loin qu'ils ne pouvaient voir. Vous pouvez imaginer, s'il y a des calculateurs, combien il y a de centaines de millions, des milliards de cailles qui sont tombées. Est-ce que notre Dieu est limité? Les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont jetés dessus sans même les plumer? Ils sont étouffés avec. Attendez, c'est ce que dit la parole. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel. Ils avaient fait une prière de convoitise. Dieu leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin, mais ils voulaient autre chose que ce que Dieu leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Ibroth-Atawa, parce que Ata-Ahava, parce qu'on y avait, ça voulait dire simplement la vallée de la convoitise. Hein. Parce que le peuple, on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Des milliers sont morts. Des milliers sont morts. Uniquement parce qu'ils avaient dédaigné ce que Dieu leur donnait. Alors que Dieu est illimité, ils avaient dédaigné ce que Dieu leur donnait. Ils demandaient toujours ce qu'ils n'avaient pas. Ils avaient tout le temps la convoitise. Et ils étaient des frustrés qui voulaient toujours ce qu'ils n'avaient pas. Ils rêvaient de ce qu'ils n'avaient plus, ils oubliaient de regarder ce qu'ils avaient. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous exhorte, il dit, rendez grâce pour tout à Dieu, en toutes circonstances, le mauvais comme le pire. Là, vous allez avoir la main de Dieu qui va s'ouvrir. Si vous êtes tout le temps en train de râler en disant, j'ai que ça, j'ai pas ça, etc., vous n'allez pas du tout ouvrir la main de Dieu, vous allez exciter la colère de Dieu. Notre Dieu n'a pas changé. On oublie de prêcher ça dans les églises. Notre Dieu n'a pas changé. Quand on rend grâce pour ce qu'on a. On dit merci Seigneur. Il y en a peut-être d'autres qui ont plus ça. Quelle importance. Seigneur, moi tu me donnes ça. Et de toute façon, tu me donnes ce qui m'est nécessaire. Alléluia. Et je peux vous dire que notre Dieu, quand on a cette attitude, notre Dieu nous gâte, parce que c'est un papa gâteau. Mais si nous avons une bonne et juste attitude de cœur, Dieu nous donnera au-delà de ce dont nous avons besoin, et bien au-delà. Mais si nous avons une attitude de cœur de revendication, et ça moi je le vois dans les églises, les gens qui ont une attitude de cœur de revendication, de murmure, qui ne sont jamais contents, 15 ans après vous les trouvez, ils sont pareils. Ils sont toujours dans la pauvreté, ils sont toujours dans la misère, ils sont toujours dans la frustration. Et ils n'ont pas avancé du tout et quelquefois, on ne les voit plus du tout, ils sont partis dans le monde. Donc, c'est grave. Donc, nous voyons à travers cet exemple que Dieu a réellement voulu nous parler avec force. Je tombe dessus, donc, dans l'histoire des serpents brûlants, là encore, ils avaient râlé contre Dieu. Et bien, quand ils ont murmuré contre Dieu, là, Dieu en avait pendu sur la tête et leur a envoyé des serpents qui les ont mordus. Et ces serpents, qui les tuaient, hein. Et pour arrêter la plaie, Moïse a fabriqué un serpent d'airain qui figure Christ, parce que Christ s'est fait pécher. Et quand ils regardaient ce serpent, ils élevaient la tête, au lieu de regarder à leurs mots, ils regardaient à Jésus-Christ crucifié sous forme d'un serpent, et bien à ce moment-là, les mots s'arrêtaient. Amen. Donc, voilà, si vous voulez, une très grande leçon qui nous a été donnée par Dieu d'une manière très forte, et donc 1 Corinthiens 10 nous rappelle que c'est écrit pour notre instruction. Notre Dieu n'a pas changé, et ne croyez pas qu'aujourd'hui les gens qui murmurent et qui râlent de ce qu'ils n'ont pas, au lieu de remercier Dieu de ce qu'ils ont, que Dieu ait changé. C'est exactement pareil qui se passe. Plus vous aurez un cœur de louange pour remercier le Seigneur de ce que vous avez, plus vous verrez la main de Dieu s'ouvrir. Plus vous aurez un cœur de frustration, de murmure, d'amertume, de convoitise, d'envie, chose, moins vous verrez la main de Dieu s'ouvrir. Et vous risquez de retomber dans le monde en disant « Dieu est injuste, il m'a oublié ». Il ne vous a pas oublié, c'est vous qui ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Alors, ce message de la capacité de Dieu illimitée de nous nourrir, de nous donner, nous est répété tout le long de la Bible. Tout le long de la Bible, d'accord ? Nous avons parlé de ce qui s'est passé. Nous allons, maintenant, nous rappelons ce qui s'est passé, par exemple, avec Élie, qui arrive chez la veuve de Sarepta, qui n'a plus rien pour manger. Et Élie lui dit, ce qui te reste, tu me le donnes. Ah ben tant pis, je te le donne, demande-moi. Et en fait, pendant tout le temps où il va être chez elle, parce qu'elle s'occupe d'un serviteur de Dieu qui représente, qui est là avec la bénédiction, qui est là pour la bénir aussi. Eh bien, son huile ne diminue point, sa farine ne diminue point. Et comme c'est une femme qui a été injustement traitée, après, elle va retrouver tous ses biens. Après, on le voit avec Élisée, exactement la même chose. Des tas de choses, par exemple, à un moment donné, ils arrivent, ils grattent tout de ça, ils font une soupe avec des coloquintes, c'est pareil, elle est amère, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est immangeable, il verse un peu de farine dedans, lui aussi, il fait de la chimie céleste, pas terrestre, et la soupe devient potable, mangeable, excellente, comme celle qu'on a mangée ce soir dans le truc. Donc, et puis, bien entendu, alors là, je ne vais pas vous citer tous les exemples, il y en a tout le long de la Bible, hein, des choses comme ça. Tout le long de la Bible, puis ça nous est dit de multiples façons, mais je vais simplement revenir à Jésus, je ne vais pas rappeler tous les miracles de Jésus, je rappelle simplement les miracles des multiplications des pains. Est-ce que vous croyez que des gens qui suivent Jésus pour entendre la parole de Dieu, tu vas les laisser crever de faim? Donc, il y a eu les multiplications des pains, il y a eu les pêches miraculeuses, attendez. Moi, il y a des pêches miraculeuses qui me font rigoler. Pierre était un pêcheur professionnel. Il dit, mais on a pêché toute la nuit. Lui, il connaissait toutes les bonnes techniques. Jésus, il était charpentier. C'est au début, ça. Il était charpentier. Il dit, jette ton filet de l'autre côté. Ça devait certainement être un contresens. Parce qu'il est probable que pour pêcher, il devait le mettre par rapport au soleil levant, d'un côté de la barque, pas de l'autre. Et Jésus leur dit, jette le filet de l'autre côté. C'est certainement être un contresens absolument parfait. Et donc, mais Pierre dit, sur ta parole, je vais le faire. Et après, les poissons s'accroulent, les filets craquent, il faut amener d'autres bacs, etc. Alors, il y a des trucs que j'aime beaucoup, moi, qui me font rigoler, parce que Dieu nous fait toujours faire un geste de foi. Je l'ai déjà dit au début, il y a toujours une petite part à faire. On va prendre Matthieu... 19, c'est Matthieu 19, non, ça c'est jeune homme riche. C'est le tribu. Ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Voilà qu'on vient demander à Jésus et à Pierre, ils sont tous les deux ensemble, on vient de leur demander de payer le tribut annuel, l'impôt annuel qui était au temple. C'était une très grosse somme. Très, très grosse somme. Alors, j'aime beaucoup la façon dont Jésus parle. C'est donc Matthieu 17, 25. Quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et lui dit, que t'en semble, Simon? Moi, je lui ai dit, chaque fois que Dieu ou Jésus ou des prophètes posent une question, ils connaissent la réponse. Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils l'impôt? Le tribut et les impôts de leurs fils ou des étrangers? Donc il dit que normalement, on ne devrait pas payer l'impôt, mais pour ne pas être un objet de scandale, les gens n'ont pas rentré dans la foi parce qu'ils n'auront plus d'impôts à payer quand même. Hein. C'est vous dites aux gens, du jour où tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, tu n'auras plus jamais d'impôts à payer. Vous allez voir, tout le monde se convertit, mais c'est une drôle de conversion. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. Attendez. Pierre est pêcheur professionnel. Il a l'habitude de jeter des filets, partir avec plusieurs bateaux. Ils font des trucs, ils font des quadrillards pour les machins, pour pouvoir ramener du poisson. C'est un pêcheur professionnel. Et Jésus lui dit, va, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Le premier poisson. Nous, on est des gens intelligents. Des mathématiciens, des statisticiens, des informaticiens. Donc on sait quand même calculer. Donc on dirait, écoute Seigneur, je voudrais quand même te rappeler quelque chose. J'ai pêché, je me mets à la place de Pierre, j'ai dû pêcher à peu près 100 000 poissons depuis que je suis tout petit. J'ai encore jamais vu un poisson qui ait même une toute petite pièce de monnaie dans le bec, ni dans le ventre d'ailleurs, ni dans les entrailles. Et tu me dis que pour payer l'impôt, il faut que j'aille simplement jeter un hameçon. Seigneur, c'est contre les statistiques. Seigneur, c'est du non-sens. C'est encore pire, parce qu'il lui dit, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche. Attendez, donc il aura un hameçon dans la bouche. Et il y aura juste à ouvrir la bouche, il lui dit même pas de lui ouvrir le ventre, il va même pouvoir rejeter le poisson à la mer. Et tu trouveras une statère, c'était une énorme pièce. Parce que c'était les pièces d'argent à ce moment-là, ça représentait une très grosse somme. Prends-lui, donne-le pour toi et pour moi. Ben figurez-vous que c'est ce qui s'est passé. C'est géant. Moi j'aime les miracles de Jésus parce que ça défie. Les miracles de Dieu défient nos logiques. Oui, puis il montre tout le temps qu'il nous prend à rebrousse-poil de nos raisonnements, de nos logiques et de notre science. La foi, et c'est pas que Dieu est contre la science, etc., il l'a donné, mais quand il nous donne des paroles de foi, quand il teste notre obéissance, notre écoute, et il peut nous demander des choses qui sont aberrantes selon la logique humaine. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il nous demande d'être sans logique dans le monde où on vit, ni de faire n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui lui disent souvent, ouais, moi je vis par le foie, la foi, alors tu vois, par le foie aussi, d'ailleurs, ça marche les deux. Alors je vais de séminaire en séminaire, je cours partout, je lui dis, de quoi tu vis? Tu travailles? Oh ben non, je ne travaille pas, mais tu sais, partout, je trouve toujours des gens qui me portent, qui m'hébergent, etc. Et tu vois, ça se passe toujours comme ça, j'y arrive. Tu dis, mais dis donc, tu ne vis pas par la foi, toi tu vis par la foi des autres. Et puis tu vis au crochet des autres. Enfin, hein. Alléluia. Donc ça, c'est pas du tout vivre par la foi, ça n'a rien à voir. Parce que le Seigneur nous donne des responsabilités, on doit les assumer. Alléluia. Alors, on a d'autres, il y a plein de choses comme ça, mais je vais prendre Jean 6. Parce que dans Jean 6, il y a des choses qui sont assez. Je vais quand même avant prendre, puisqu'on est dans Matthieu 17, je vais prendre l'histoire du jeune homme riche. Parce que c'est très intéressant. Vous connaissez tous l'histoire du jeune homme riche. À partir du verset 6, 16 en Matthieu 19. Parce que moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers ces choses-là. Il m'a montré des choses tout à fait essentielles. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Un seul est bon. Un seul est bon. Donc c'est clair, c'est net, c'est sans bavure, il n'y a pas de mal, il n'y a pas à en rajouter. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Déjà, petit arrêt. Jésus n'a pas dit la loi est obsolète, hein, tu peux l'acheter à la poubelle. Observe les commandements. Partout, Jésus, quand les gens lui posent des questions, il dit as-tu observé ceci? As-tu observé ceci? Il ramenait toujours à la loi. La grâce vient parce que la loi a servi de miroir pour montrer que l'homme avait besoin d'un sauveur. Mais si on ne ramène pas les gens à la loi, le salut n'a aucun sens. Il faut qu'ils comprennent que face à la loi, ils sont irrémédiablement perdus. Donc Jésus lui dit, as-tu observé ça? Alors il lui dit, mais lesquels? Lesquels? Quel commandement? Parce qu'il est convaincu que et toute la Torah, il la suit. Et Jésus lui répondit, et là, vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements. Sauf qu'il en manque deux. Les deux premiers. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas cité les deux premiers? Parce qu'il savait que ce jeune homme qui croyait obéir à la loi n'obéissait pas aux deux premiers commandements, sans le savoir. Les deux premiers commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ce jeune homme n'obéissait pas à ce commandement. Et le deuxième, tu te prosterneras pas devant d'autres dieux, tu n'auras pas d'image taillée, etc. Il avait un autre dieu, il ne le savait pas. Et son autre dieu, c'était son argent. Donc Jésus n'a pas fait. Il y a autre chose que j'ai découvert depuis peu. Les commandements qu'il lui cite, c'est tous les commandements, comme je l'ai dit dans la semaine, horizontaux. C'est-à-dire on fait du mal, on peut avoir des remords parce qu'on a fait du mal à autrui. C'est-à-dire qu'on voit les effets. Donc il faisait des commandements dans lesquels les autres disaient « Oh, c'est un homme bien !» Mais les commandements verticaux, le commandement est avant tout vertical quand on désobéit, c'est à Dieu qu'on désobéit. Et les deux premiers ne sont que des commandements verticaux. Les autres sont des commandements horizontaux et verticaux. Mais les deux premiers sont les commandements verticaux. C'est-à-dire on offense Dieu direct. On n'offense même pas les autres. C'est Dieu direct. Dans les autres, il voulait bien être bien vu, donc il les observait, mais en réalité, il n'aimait pas Dieu. Il croyait aimer Dieu, il n'aimait pas Dieu. Il croyait dominer sur son argent dominait sur lui. Et il nous est dit que ce jeune homme, comme Jésus lui a dit, mais si tu veux être parfait, tu vends tout ce que tu as et tu le donnes aux pauvres. Et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il était strictement incapable d'obéir. Parce que son cœur n'était pas attaché à Dieu. Son cœur était attaché à son argent. Mais il a fallu que Jésus le confronte à ça. Et quand, je peux vous dire que si on est des chrétiens disciples, Dieu nous confrontera à des périodes, et surtout si on a un ministère, il nous fera toujours passer par des périodes où on devra ne rien avoir pour dépendre totalement de lui, car c'est là qu'on verra si on aime vraiment Dieu, si on fait vraiment confiance à Dieu, ou si on fait confiance dans ce qu'on a. Parce que tant qu'on ne l'a pas perdu, on ne le sait pas. On est convaincu que, oh oui, mais j'ai de l'argent, mais tu sais, je suis, enfin, franchement, honnêtement, j'y suis pas attaché, j'en fais ce que je veux, je le gère, j'obéis à Dieu. Et puis tout d'un coup, le Seigneur nous enlève tout, et puis c'est là qu'on s'aperçoit que, en réalité, on avait mis toute notre sécurité dans le truc, où on a un bon salaire tous les mois, moi, je suis Dieu, il n'y a pas de problème, puis tout d'un coup, on perd son salaire, et puis on n'a plus la moindre foi. Ou notre foi, elle est complètement bancale, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, on n'a plus de foi du tout en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on avait plus foi dans notre patron qu'en Dieu, dans notre travail qu'en Dieu, dans notre entreprise, qu'en Dieu. Mais c'est quand on est dans des épreuves, Dieu peut permettre de nous mettre dans des épreuves de foi. Il l'a fait avec son peuple, Il peut nous mettre dans des épreuves de foi pour voir si on a vraiment foi en Dieu. Si on veut vraiment marcher avec le Seigneur, nous passerons par des épreuves de foi où Dieu peut tout nous enlever. Quand Jésus a dit « Nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il a. » Oh Seigneur, je n'ai pas grand chose, je renonce facilement à tout ce que j'ai. Ouais, puis tout d'un coup, on commence à avoir un bon boulot. Ah ouais? Est-ce que tu es prêt, si je te dis tout lâcher, ton filet, tes bœufs, tes charrues, est-ce que tu es prêt à me suivre et à, sans savoir où tu vas, filet sans parachute? C'est là qu'on va voir si on croit, à quoi accrocher notre foi. C'est dans les épreuves. Alors, il peut y avoir des épreuves dans la vie chrétienne, car Dieu va nous montrer ce qui est dans le fond de notre cœur. Et si vraiment ce qu'on croit, le jeune homme riche était absolument convaincu d'être détaché de l'argent, d'être propriétaire de ses biens, mais il donnait plein de choses, il donnait plein d'aumônes, il était absolument convaincu d'être délié, il était convaincu qu'il n'était pas lié du tout. Il l'était, et en réalité, son amour pour Dieu, ben, nul ne peut servir de maître. Il était convaincu de servir Dieu, il ne servait pas Dieu. Il servait son argent, il servait sa propre notoriété, il servait sa propre justice, son opinion qu'il avait de lui-même, il servait, mais il ne connaissait pas Dieu. Et puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui, et je me mets dans le lot, moi le Seigneur m'a fait passer des épreuves où j'ai dû être confronté dans la foi pour savoir si oui ou non je continue à faire foi en Dieu. Croyez-moi que ça va régulièrement, le Seigneur m'y remet. Régulièrement. Parce que le monde a vite fait de nous reprendre. Régulièrement, le Seigneur me remet dans une épreuve de foi par rapport à l'argent, parce que très vite, on a tendance à davantage faire confiance dans les sécurités alimentaires, tous les biens qu'on a, etc., plutôt qu'en Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça doit devenir une réalité dans nos vies, parce que si ce n'est pas une réalité, dans les temps qui arrivent, si ce n'est pas le cas, dans les tribulations qui arrivent, nous, notre foi ne tiendra pas le choc. Amen. Et notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Amen. Aux yeux de Dieu. Alors on va passer à Jean 6, parce que là nous avons quatre attitudes qui sont quatre attitudes qu'on peut avoir les uns et les autres tour à tour. Donc une grande foule suit Jésus. Ils sont en train de crever de faim. Ils sont partis, remarquez, hein, ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Ils sont partis, il est probable qu'ils pensaient partir pour une demi-heure, et puis ils ont fait comme vous, ils sont restés, sont retrouvés pendant 8 jours coincés dans un coin. Mais vous, vous aviez tout prévu, alors vous aviez amené vos sandwichs. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, alors toujours pareil, question à laquelle Jésus connaît la réponse, mais pour voir, pour mettre Philippe devant son propre cœur. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, ça nous est clairement dit, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, alors Philippe est le parfait prototype de l'informaticien, polytechnicien. Il mesure la foule du regard. Il commence à dire, voilà, il y a 5000 personnes. Par pain, il faut combien de miettes de pain par personne pour qu'il soit à peu près rassasié, qu'il tienne le coup, jusqu'au soir, mettons qu'il en faille 42. Combien il y a de miettes de pain en moyenne dans un pain divisé par 42? Donc, combien de pain il faudrait? Et là, il commence à voir le chiffre vertigineux. Et il dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'était quasiment un salaire annuel, hein, avec les RTT actuels, hein, parce que je travaillais plus que 200 jours par an. Parce que le denier, c'était le salaire d'une journée. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, il a certainement jamais vu une telle somme, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un peu. Donc il a bien fait son petit calcul. Terminé, je ferme ma Bible. C'est impossible. Je replie mes crayons, je replie mes bagages. Jésus, c'est impossible. On arrête tout, on va les laisser crever de faim. C'est terminé. Ça, c'est la logique du polytechnicien. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit... Alors, il doit arriver comme ça en disant, je vais me courir de ridicule. Donc, il va tout de suite prévoir une réponse pour dire, si jamais Jésus m'envoie paître, au moins, j'aurais déjà dit, je te l'avais dit, hein, que c'était rien du tout. Nous, on ne fait jamais ça, hein. On dit jamais, Dieu va pourvoir, mais bon, si Dieu décide que non, je t'aurais dit, hein, je t'aurais averti que, hein, bon, on met tout de suite, bon. Alors, il lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est que cela pour tant de personnes? Bah ouais. Point final, il a fait un tout petit pas de foi. Il a quand même osé dire qu'il y avait un panier tenu par un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons. L'orge, c'est pas du blé, hein. Jésus dit, faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Pas rien. On ne sait pas s'il n'y avait pas en plus les femmes et les enfants. Hein. Jésus prit les pains, rendit grâce. Alors, troisième attitude, donc on a eu déjà deux attitudes. Jésus prit les pains, rendit grâce. Il ne s'occupe même pas de savoir ce qu'il y a dans le panier, Jésus. Ça veut dire quand même que Simon avait amené le panier, hein. Donc il avait fait le petit geste. Rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Illimité. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Dieu ne veut pas qu'on fasse gaspillage et qu'on se moque des païens qui n'ont rien. Parce que ça, Dieu ne supporte pas non plus. D'accord ? Il veut bien nous gâter, mais il ne veut pas qu'on ait de la morgue, ni qu'on convertisse les autres en disant « t'as qu'à te convertir, tu vas être prospère ». Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. D'accord ? Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, les 5 pains d'orge, etc. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Bon. Il y a donc trois attitudes qu'on a vues. Jésus, lui, il a dit, en Jean d'ailleurs, « Je ne fais rien que je n'ai vu faire au Père. » Donc Jésus savait ce que le Père allait faire, car dans le ciel, il l'avait déjà vu. Il avait les yeux spirituels ouverts sur les choses de Dieu et il avait vu dans le ciel que Dieu allait multiplier les pains. Donc, très tranquillement, il savait que Dieu allait faire un miracle. Il n'avait aucun doute. Donc ça, c'est la foi absolue, la foi de Jésus. Et puis, il y a une quatrième attitude là-dedans. Celle que Dieu veut aussi qu'on ait, c'est le petit garçon. Le petit garçon, il est probable que ses parents lui ont confié le panier en disant, c'est tout ce qu'il y a pour toute la famille, surtout garde-le bien, hein, et que tu ne le perds pas. C'est probable. Le petit garçon, on ne sait pas ce qu'il a dit. Mais il y a une chose, on est sûr que Simon ne lui a pas arraché les mains. Il est probable que le petit garçon a tendu le panier en disant « Prends ». Jésus a dit « Si vous n'avez pas des cœurs comme les petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume des dieux. » Ce petit enfant, il avait une foi totale en Jésus. Et il a donné. J'aime beaucoup ce truc parce que nous avons toutes les attitudes que nous pouvons avoir tour à tour. Il y a des moments où on est gonflé par la foi. Il y a des moments où on est des mathématiciens raisonneurs comme Philippe. Il y a des moments où on est comme André, on vient avec notre petit bout de foi en disant « On ne sait jamais, peut-être que ça va marcher. » Mais bon, on aura bien dit d'avance que ce n'est pas sûr. Et puis, il y a des moments où on a un cœur d'enfant Et le Seigneur aime quand on a des cœurs d'enfants. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ça. Alors, nous avons évidemment, je vais parler rapidement de la dîme parce qu'il y a plein de fausses doctrines. Actuellement, la loi n'a pas disparu. Jésus l'a accomplie parce qu'elle était bonne. La parole de Dieu nous dit qu'elle est parfaite. Mais c'est précisément parce qu'on ne pouvait pas accomplir la loi, parce que nous étions profondément mauvais, que Jésus est venu l'accomplir pour nous, a payé tous nos péchés et a été crucifié sur la croix. Et Hébreux 8 et Hébreux 12 nous disent, et Hébreux 10, pardon, nous disent que Dieu a inscrit ses lois dans notre cœur. Il ne les a pas fait disparaître. Les lois qui ont disparu ont toutes été remplacées dans le Nouveau Testament par des lois plus parfaites. D'accord ? Il n'y a plus besoin de faire des rites sacrificiels parce que Jésus a accompli le sacrifice parfait une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de créer des temples parce que nous sommes devenus le temple de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit ne vient plus dans un temple de pierre, il vient dans un temple de chair, c'est nous. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Chaque fois que Dieu a changé quelque chose, il n'y a plus tous les rituels sur la nourriture pure et impure, car Dieu clairement a dit à Pierre, vous pouvez maintenant manger de tout. Et Paul dit, vous pouvez manger tout ce qu'il y a sur le marché. Pas la peine de se casser la tête, on va dans les actes qui se torturent pour savoir ce qu'il faut faire, pas faire. On peut manger de tout. Point final. On bénit, on remercie le ciel pour ce qu'il nous donne. Et on remercie Dieu. C'est pas la peine de se faire. Pour que Dieu sait qu'il y a encore des tortures dans le peuple de Dieu. Là-dessus, il y en a encore 2000 ans après. Hein? Bon. Alors, la loi sur la dîme, il y a beaucoup de gens actuellement qui disent, oh mais la dîme, c'est l'Ancien Testament. Alors, moi, à force d'entendre, je dis, c'est vrai, le Nouveau Testament ne parle plus de dîme. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec la dîme? Et moi, quand je ne sais pas une réponse, quand je suis confus, je pose la question à Dieu. Et il peut me répondre de toutes sortes de manières, soit dans sa parole. En général, d'ailleurs, il me donne des confirmations de sa parole, quoi qu'il arrive. Et, ou bien alors, il me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers la bouche de quelqu'un, à travers un livre, à travers tout ce qu'on veut. Et au moment où j'étais en train de bien me torturer parce qu'on m'envoyait les papiers de tous les côtés, la dîme n'est plus, même des gens que j'estimais beaucoup, j'ai dit, la dîme n'est plus du tout Nouveau Testament, d'ailleurs il faut vraiment maintenant, d'ailleurs ce qui est vrai, qu'on marche vraiment par l'Esprit de Dieu. Donc si on marche vraiment par l'Esprit de Dieu, ben, il va nous dire combien mettre, et croyez-moi que ce sera toujours plus que la dîme, hein? D'ailleurs dans l'Ancien Testament ils payaient beaucoup plus que la dîme. Ils donnaient beaucoup plus. Il y avait la dîme, il y avait les prémices, il y avait les offrandes votives, il y avait les offrandes sacrificielles, il y avait la dîme de la première année, la dîme pour les pauvres, il y avait la dîme, et puis il y avait en plus toutes les offrandes pour la construction du temple, etc. C'était énorme. Et puis il y avait des moments où il y avait Moïse qui était obligé de dire arrêtez d'en donner, il y en a trop, ça déborde. Et le peuple était super béni en fait. Amen. Et en réalité, c'est parce que plus on donne, comme selon l'ordre de Dieu, plus le monde nous réclame d'argent, d'impôts, qu'on a des trucs qui tombent en panne, qu'on se retrouve avec plein de choses, parce que Dieu n'a pas changé. Je tombe sur un livre, et ça a été un choc de lumière pour moi, parce qu'il était dit dedans, toute loi qui n'a pas été abrogée dans le Nouveau Testament, d'une manière formelle, il y en a qui ont été abrogés, d'accord ? Ou alors Jésus les a améliorés, parce que en Matthieu 5, il dit, il n'y a pas un iota de la lettre qui va disparaître, puis il dit, vous avez été dit que vous pouviez avoir une lettre de divorce, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Moi je vous dis que, déjà si vous regardez une femme pour la convoiter, vous êtes adultère. Puis il dit, oui, il a été dit que vous pouvez haïr votre ennemi, mais moi je vous dis, bénissez vos ennemis. Donc, ce qui est changé, c'est toujours mis plus haut, la barre est beaucoup plus haut, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, et je lisais, toute loi qui n'a pas été abrogée clairement parce que Dieu a fait quelque chose de plus parfait est supposée perpétuelle. J'ai dit, mais Seigneur, c'est tellement simple. Et puis là-dessus, le Seigneur m'a amené dans Matthieu 23. Moi, j'ai jamais eu de problème pour donner ma dîme. Même quand je me suis converti, j'avais rien. Je dis, Seigneur, je te donnerai plus que ma dîme. Je vais te donner deux fois ma dîme chaque fois. C'est comme ça que je l'ai eu sur le cœur. Pourtant, j'avais rien. Je savais même pas comment j'allais vivre le lendemain. J'étais dans la ruine la plus totale. Et je l'ai fait. Et plus je l'ai fait, plus... Je dis pas qu'on doit le faire. parce qu'on ne fait pas de zèle avec Dieu. Dieu me l'avait mis sur le cœur. Et j'ai vu vraiment le Seigneur qui j'ai manqué de rien, quoi. Et puis au contraire, Dieu a petit à petit rétabli mes finances, alors que j'étais totalement ruinée. Hein. C'était quand même merveilleux. Aujourd'hui, je suis une petite gâtée, moi. Alléluia, merci Seigneur. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, c'était des denrées précieuses hein, à l'époque, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, donc là encore il ramène à la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, donc il fallait la pratiquer, la dîme. Sans négliger les autres choses. Jésus n'a jamais dit, allez hop, on bazarde la dîme. Nulle part, vous ne voyez dans le Nouveau Testament que la dîme n'existe plus. Elle est supposée perpétuelle. Mais quand on nous dit mettez au début de la semaine, ça veut dire que chaque chrétien est censé, en dehors de toute pression, demander au Seigneur ce qu'il doit donner, comment il doit donner, à qui il doit le donner, comment il doit le donner. Dieu veut qu'on soit un peuple généreux et qu'on lui fasse confiance. Rappelez-vous l'histoire de la petite vieille avec ses deux petites pites. Et quand Jésus dit ouais, eux ils ont donné des grosses sommes, ils ont donné de leur superflu, tandis qu'elle a donné de son nécessaire. Vous croyez qu'à la sortie, elle n'en a pas reçu de quoi largement, c'est évident. Parce que notre Dieu, il fait pleuvoir du ciel ce qu'il veut. Amen. Sa manne arrive comme il veut. Quand il peut faire pleuvoir 1 milliard de cailles d'un coup, ou 3 milliards, peu importe, le nombre, ça n'a aucune importance. Notre Dieu regarde notre cœur. Si nous sommes fidèles, il sera fidèle. Alors, je voudrais terminer sur 2 Corinthiens 9. Et croyez-moi, c'est un état d'esprit. On vous le lit souvent pour vous dire, moi, déjà, regardez que Jésus, quand il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes et donne-le toi-même aux pauvres. Il ne lui a pas dit, viens le mettre dans mon escarcelle. Quand vous allez dans des séminaires, on vous dit, si vous mettez beaucoup de sous dans le panier qui est là devant vous, vous allez être super béni, prenez courage, prenez la fuite. Laissez-vous guider par le Seigneur pour savoir à qui vous devez donner, quand vous devez donner, car nous devons rendre compte, car quelquefois on arrose des loups. Et puis le Seigneur m'a montré que quand on est manipulé par des gens, comme le dit 2 Pierre 1, ils vous manipuleront au moyen de paroles trompeuses, hein, ils vous exploiteront. Le Seigneur m'a montré que quand des gens arrivent en disant, oui, j'ai entendu souvent, hein, des prédicateurs, oui, si vous, tu sais, si tu mets dans ici, là, 100 euros, crois-moi, Dieu, dans moins de 6 mois, t'en auras 1000. Si vous les mettez, c'est vous qui êtes cupide. Vous avez joué au loto. Vous avez misé pour gagner. Et en plus, pour gagner à tous les coups. On aura encore rendre compte à Dieu, on est tout aussi coupable. On doit faire les choses selon la volonté de Dieu et selon ce qu'il nous demande. Laissons, si nous avons l'Esprit de Dieu, il va incliner notre cœur. Il y a des églises qui pompent les gens et il y a des œuvres qui crèvent parce que tout est mobilisé par les églises. Et il y a des œuvres fantastiques qui sont à soutenir. Des radios, des télé-chrétiennes, il y a des tas d'œuvres, hein. Il y a des missionnaires qui partent dans des conditions épouvantables. Dieu peut nous donner, ou tout simplement soutenir la personne qui est en train de crever de faim à côté de chez nous. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, laissons-nous guider par le Seigneur. Je m'exhorte tout autant que vous, parce que je vous assure qu'on est très facilement entraîné. Avec la manipulation de la parole de Dieu, on nous manipule la parole de Dieu pour faire sortir, faire payer. Il y a des séminaires toutes les 30 secondes. Allez, hop, il manque encore. Le Seigneur me montre. Alors, ça, je l'ai vu en Afrique, mais je l'ai vu aussi en France. Le Seigneur me montre, alors ça je peux vous le dire, hein, vous êtes 70, le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un ici qui a un billet de 100 euros. S'il ne vient pas le porter tout de suite, il va y avoir une malédiction sur lui. Mais moi j'ai entendu des gens, c'était pas 100 euros, c'était quelquefois avec des francs CFA, les gens ils étaient pris de panique et ils amenaient tout alors que ça représentait leur nourriture de toute la semaine. C'est honteux, c'est vraiment des loups. Moi j'ai des pasteurs qui m'ont raconté qu'il y avait des gens qui leur téléphonaient en leur disant « Tu sais, le Seigneur m'a montré que… » ou le contraire, hein, c'était des soi-disant pasteurs qui allaient les appeler. « Mais le Seigneur m'a montré que tu devais me donner ma voiture, ta voiture. » »« Ah ouais, pourquoi il ne me l'a pas dit à moi ?»
J'ai vu en Guinée 4 heures d'offrande, 4 heures d'offrande, vous m'entendez bien, 4 heures. Ils avaient mis un roi et une reine, enfin un homme et une femme, et les gens devaient donner les femmes aux femmes, les hommes aux hommes, et ils faisaient un concours, celui qui donnait la plus.
Oui, mais moi j'ai vu des trucs pareils en Afrique. Et en plus, le pasteur qui s'amusait à ça, il s'est cassé la gueule de l'estrade, il s'est cassé la jambe. Et moi j'avais un malaise depuis le début, je disais, c'est pas juste ce qu'ils sont en train de faire. Ils se cassent la figure, ils se cassent la jambe. Ça me fait rire avec les années parce que. Il a mis des mois, ça a été une terrible blessure. Là, l'estrade était, comme on était 80 000, l'estrade elle était haute. Hein. Mais bon, en général, le Seigneur, c'est pas comme ça qu'il agit, parce qu'il donne du temps aux gens pour se repentir. Mais là, je crois qu'il voulait donner une leçon à tout le monde. Et il voulait, quelquefois, ça peut tomber d'une manière foudroyante aussi. Hein. Alléluia. Alors, on va lire maintenant, mais vraiment dans cet état d'esprit. C'est pour vous, c'est une parole de Paul, c'est une bénédiction, c'est réellement une source de bénédiction, et après on lira Matthieu 5. Sachez-le, il y a plein d'autres textes qui vont dans le même sens, je ne vous lis pas tout, hein. Celui qui sème peu moissonnera peu. Je veux dire, on ne parle pas seulement d'argent, on parle d'amour, on parle de temps, on parle de tout. Hein, il y a des gens qui se dévouent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur... on sème beaucoup de choses. Hein. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On peut semer de l'argent parce qu'on a de l'argent, et puis on va récolter de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu connaît nos besoins, et il peut nous surprendre. Hein. On n'est pas en train de jouer au loto céleste. Où on peut au contraire donner beaucoup de notre temps parce qu'on n'a rien d'autre à donner, et puis le Seigneur va nous bénir financièrement. Hein. Mais ce n'est pas précisé que c'est de l'argent. Il n'y a pas la peine de mettre argent là où il n'y a pas marqué argent. D'accord ? C'est une loi générale, c'est une loi spirituelle. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. N'obéissez pas aux pressions, et encore moins aux pressions sentimentalistes. Et toutes les ouins qui se sont amusés à faire des pressions, je les vois tous se casser la figure les uns après les autres. Moi, quand je fais ce type de message dans les églises, je demande expressément au pasteur que la corbeille passe avant et pas après. Je l'ai fait dans deux églises en Belgique il n'y a pas très longtemps. J'ai fait passer une corbeille après, je peux le dire là parce que je ne vais pas le faire, j'ai pas dit du tout, j'ai simplement demandé que tous les indigents, ceux qui n'ont même pas de toit, ceux qui ont vraiment, qui souffrent, s'avancent, et ils se sont avancés en pensant que j'allais prier pour eux et les bénir. J'ai dit maintenant on met les choses en action, vous qui avez, vous allez venir les bénir, leur donner, et ne le faites pas qu'une fois. Nous avons souvent à côté de nous dans la même église des frères et sœurs crèvent de faim. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il teste notre cœur avec. Et c'était merveilleux de voir les larmes, ces gens qui ont la honte, en plus que même pas dire qu'ils crèvent de faim. Soyons attentifs, il y a des gens qui crèvent de faim à côté de nous. Le Seigneur veut, il veut qu'on soit attentifs aussi à ça. C'est pas par hasard qu'il nous les met à côté de nous. Et pas seulement dans l'église, il y en a aussi autour de nous, dans la rue, etc. Hein. C'est pas ça qui manque. Hein. C'est pas ça qui manque. Car Dieu aime Oh, celui qui donne avec joie, on le donne avec joie. On ne le donne pas pour faire un troc avec Dieu, on ne le donne pas pour dire avec comme ça je vais être béni, on le donne pour parce qu'on sait que ça fait plaisir au cœur de Dieu. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, je souligne le mot besoin, pas désir, parce que la parole de Dieu dit aussi, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez pour satisfaire vos passions, donc vos désirs, choses inutiles, et vous réclamez à Dieu des choses inutiles et de quoi combler les désirs. Dieu n'est pas contre le fait de nous gâter et nous donner en abondance plein de choses, hein, en plus. Il aime, il est sapère, il aime bien qu'on soit heureux. Bon, amen. Mais Dieu veut, en plus, on l'honore quand on est généreux. On honore Dieu. Ça prouve qu'on a vraiment confiance dans le fait que ce qu'on va donner, bon, ça va pas... C'est pas une soustraction, c'est pas les mathématiques terrestres. Les mathématiques célestes, c'est pas une soustraction. Quand on donne, c'est pas une soustraction, c'est une addition. D'accord ? On donne selon ce que Dieu nous donne, nous pousse à donner, et on est toujours émerveillé de voir la manière dont le Seigneur va nous le rendre d'une manière qui quelquefois nous bouleverse nous-mêmes. De manière que, possédant toujours tout quoi de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance, Dieu le veut, pour toute bonne œuvre. Dieu veut qu'on montre au monde que nous sommes un peuple généreux, donc il veut que nous ayons au-delà de nos besoins, afin qu'on puisse bénir d'autres. Amen. Qu'on puisse soutenir ses œuvres, qu'on puisse soutenir les ministères, qu'on puisse soutenir les pauvres, qu'on puisse soutenir des choses, qu'on puisse prouver que notre Dieu est généreux. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dieu est généreux, soyons-le. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Ça veut dire pas simplement dans le portefeuille, dans tous les domaines. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. On va donner aux gens, on va dire, tiens, c'est de la part de Dieu, je te donne ça. Qui est-ce que les gens vont remercier ? Dieu. Alléluia. On va en amener au Seigneur comme ça. On va terminer par Matthieu 5. J'ai commencé par Matthieu 5. Non, Matthieu 6, pardon. Et on va terminer par Matthieu 6. On va reprendre à partir du verset 24. Nul ne peut servir de maître où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Vous savez que la parole de Dieu dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous vivez dans l'inquiétude, vous allez être des parapluies à problème, des paratonnerres à problème. Si vous faites confiance à Dieu, eh ben, ça va être au contraire un parapluie à bénédiction pour les recueillir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur nous dit que tout simplement c'est tellement plus que de toute façon ça fait partie des besoins, la nourriture et le vêtement. Donc il va s'en occuper. Hein. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils ne massent rien dans les greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Ce sont ces créatures, il les nourrit. Ne valez-vous pas plus? Quand les hommes ne sont pas nourris, c'est parce que le péché a tellement surabondé que le diable a eu le droit de tout voler. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est le contraire. Les soucis vous rongent et vous la raccourcissent. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille, il ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des gens qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Seigneur nous dit que nos inquiétudes sont une démonstration de manque de foi. Et sans la foi, on ne peut plaire à Dieu, dit la parole. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens. Donc ça veut dire que quand nous nous inquiétons, nous sommes au rang, remis au rang des païens devant Dieu. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça ne nous empêche pas de faire connaître nos besoins à Dieu, Paul, hein, de mettre notre foi en action. Père, j'ai besoin d'eux. Amen. Et on va le formuler. Et c'est, on met notre foi en action. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord les choses qui sont en haut, pas les choses qui sont en bas. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous dit Paul, pas aux choses d'en bas. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous dit, mais maintenant, vivez aujourd'hui, faites-moi confiance. Si vous me faites confiance, si vous vous affectionnez aux choses en haut, si vous vous affectionnez, si vous vous occupez de plaire à mon Père, si vous écoutez d'écouter, d'obéir, c'est pas la peine de vous soucier de ce qui va se passer demain. Paul le dit autrement, il dit, mais quel est le soldat qui s'embarrasse des choses de la vie? Seigneur, tu nous envoies combattre, tu nous envoies évangéliser, tu nous envoies n'importe où, hein, n'importe où on peut servir Dieu. On peut servir Dieu dans des petites choses, dans des grandes choses, on peut servir Dieu en gardant des enfants comme le fait Laurence, on peut servir Dieu en faisant l'école, on peut servir Dieu en travaillant, on peut servir Dieu partout. D'accord? Mais on peut vivre par la foi partout, comprenons-le bien. Vivre par la foi, c'est pas vivre sans travailler. D'ailleurs, je peux vous dire que le ministère, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais on travaille un peu beaucoup. Moi, j'ai pas. La retraite, on ne connaît pas. Vacances, on ne connaît pas. Week-end, on ne connaît pas. Et le reste de la semaine, on travaille 10 heures par jour. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse! Mais quelle merveille, moi, ma plus grande récompense, c'est de parler.